Bonjour tout le monde, bienvenue à notre deuxième segment technique de l'épisode 4, mois de mars 2017. Ce mois-ci, on va parler de la sécurité sur Mac avec Guillaume et Nicolas. Bonjour messieurs.
Hey, salut.
Yes. Excellent. Donc, on va commencer ça avec un des de tes premières choses, l'Objective-C.
Donc oui, c'est ça, Objective-C, S-E-E, c'est le nom d'une compagnie qui appartient à Patrick Wardle, qui est un chercheur en sécurité, qui a une très très bonne réputation, donc c'est des outils vraiment de qualité qui sont gratuits. Donc je vous recommande de regarder tous les outils qui sont disponibles sur le site de Objective-C, on va mettre le lien sur le site web, sur les show notes vers son site web. Donc les deux outils spécifiquement dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est BlockBlock et KnockKnock. Donc, ces deux outils qui sont vraiment complémentaires. BlockBlock sert à bloquer, puis KnockKnock sert à voir ce qui se passe sur votre système. Donc, ça fonctionne vraiment ensemble. Donc, BlockBlock, que je recommanderais d'installer presque en premier quand vous avez un nouveau Mac, lui, ce qu'il vous permet de faire, c'est d'être averti quand il y a un processus qui essaie d'installer des trucs qui vont rouler au démarrage de votre système. Puis quand il vous avertit, il vous permet de l'autoriser ou de le bloquer. Donc, par exemple, si vous installez Google Chrome, puis vous avez déjà BlockBlock, ben, ça va vous dire « Hey, il y a Google Chrome Installer qui essaye d'enregistrer Google Chrome Updater pour se lancer au démarrage. » Puis là, vous pouvez dire « OK, c'est beau » ou « Deny ». Ça, c'est vraiment, vraiment pratique parce que, premièrement, ça vous permet de voir qu'est-ce qui se passe quand vous démarrez votre Mac, qu'il n'y a pas un paquet de nouveaux trucs qui s'enregistrent. Des fois, on installe les choses puis on ne veut pas nécessairement avoir le processus dans le background qui va avec ça. Mais le fait est qu'il y a beaucoup de malware pour Mac qui va utiliser ces techniques-là pour persister sur votre système. Donc, si vous voyez quelque chose de louche qui essaie de s'installer, ben vous pouvez faire deny puis aller rechercher un petit peu c'est quoi ça. Faire vos recherches, voir si c'était normal. La seule chose avec BlockBlock qui est un peu moins user-friendly, c'est que des fois, si vous avez les updates automatiques sur Mac qui s'installent, ça se peut qu'il y ait quelque chose qui fasse un peu peur, du genre, si vous ne vous rendez pas compte que iTunes est en train d'être mis à jour, puis tout à coup, vous avez un pop-up de BlockBlock, puis vous allez peut-être vous demander, « Oups, qu'est-ce qui se passe? » Mais ce que je vous recommande de faire, c'est quand vous avez un pop-up BlockBlock auquel vous ne vous attendiez pas, faites juste checker dans l'App Store si vous avez des mises à jour qui sont en train de s'installer. La plupart du temps, c'est juste ça. Donc, si c'est un système qui est flambant neuf, ben, je vous recommande vraiment mettre BlockBlock au début parce que comme ça, ben, vous savez que tout ce que vous allez installer après va passer à travers BlockBlock. Vous allez autoriser ce qui a du sens puis vous allez bloquer ce que vous ne voulez pas puis ça va être propre. Mais qu'est-ce qu'on fait si on a un système existant ou à plus long terme, vous allez vouloir vérifier bon, qu'est-ce qui s'exécute sur mon Mac au démarrage? Ben, c'est là que KnockKnock rentre en jeu. Donc, KnockKnock, quand vous l'exécutez, vous faites Start Scan. Puis quand vous démarrez le scan, il va regarder les plugins, les extensions de browser, les cron jobs, les extensions de kernel, tout ce qui se lance au démarrage, au login, les startup scripts, tout ce genre de choses-là qui peuvent être utilisées pour persister sur un Mac. Puis quand il les scanne, il va envoyer les résultats, par exemple les hashes des exécutables qui roulent vers VirusTotal, puis un paquet de trucs comme ça qui va vous permettre de regarder facilement qu'est-ce qui roule sur mon système qui ne fait pas partie du système d'exploitation de base? Est-ce que c'est quelque chose qui a l'air clean? Puis si ce n'est pas quelque chose qui a l'air clean, ben vous allez pouvoir avoir plus d'informations sur le fichier, qu'est-ce que VirusTotal en pense, etc. Donc si c'est un Mac existant, définitivement mettez KnockKnock en premier, vous allez pouvoir faire votre cleanup et après ça mettre BlockBlock. Si c'est un système qui est flambant neuf, ben je ferais probablement l'inverse. Puis, tu sais, si vous avez des cron jobs, des trucs comme ça sur votre Mac, puis vous n'êtes pas au courant c'est quoi, il y a probablement quelque chose de louche qui se passe. Donc, avec BlockBlock puis KnockKnock, vous allez être certain que vous pouvez garder tout ce qui est script de démarrage, tout ce qui est extension de kernel, vraiment clean, puis d'avoir une bonne visibilité, qui est assez difficile à avoir sans des outils comme ça sur un Mac, parce que ben même, tu sais, sur Windows, c'est un peu pareil, là, il y a tellement d'endroits où ce que un logiciel peut s'inscrire pour être démarré automatiquement que c'est assez difficile à faire à la main. Fait que tous les autres outils de Objective-C sont aussi très bons, mais c'est vraiment les deux qui sont les plus pratiques. Donc, on commence avec ça.
Excellent. Donc, pour continuer, d'autres outils côté Mac, on va voir Little Snitch. Qu'est-ce que ça fait, Little Snitch?
Ouais, Little Snitch, c'est un firewall qui est vraiment user-friendly. Mais quand je dis user-friendly, quand même pour des power users, mais dans le sens qu'il y a une interface graphique, il vous permet de créer des règles assez facilement. Mais surtout, il va être utilisé pour bloquer ou gérer plutôt le trafic qui sort de votre Mac. Il peut être utilisé pour créer des règles pour le trafic entrant, mais sur un Mac, par défaut, le firewall de Mac est correct pour bloquer le trafic entrant. Mais là où est-ce qu'on n'a vraiment pas beaucoup de visibilité, c'est quoi le trafic sortant? Puis ça arrive assez souvent que, bon, si on roule une application qu'on vient d'installer, puis qu'on regarde le trafic qui sort, ça se connecte, ça fait des call home, ça fait des choses auxquelles on ne s'attend pas nécessairement. Ben avec un logiciel comme Little Snitch, la première fois que vous exécutez une application, vous allez voir où est-ce qu'elle essaie de se connecter, puis vous allez pouvoir créer des règles qui sont aussi granulaires que vous le voulez. Donc, par exemple, si vous utilisez Word, ben peut-être que vous allez vouloir permettre qu'il se connecte sur Microsoft.com sur tous les ports, puis c'est assez pour vous de savoir que Word se connecte juste chez Microsoft pour ses updates, vérifier sa licence, bon, Microsoft.com, Office 365, etc. Mais vous pouvez aussi être vraiment, vraiment plus précis, puis dire, OK, ben mon browser, je veux juste qu'il se connecte sur le port 443 puis le port 80, mais la destination, ça va être n'importe quel serveur. Donc, ce qui est important avec les Little Snitch, c'est essayer de décider le niveau de paranoïa que vous avez puis créer les règles en fonction de ça. Mais l'idée, c'est vraiment quand vous avez un nouveau logiciel, vous allez tout de suite voir où est-ce qu'il veut se connecter. Puis aussi, si vous avez un logiciel qui se comporte d'une manière qui est vraiment différente de ce qu'il fait d'habitude. Donc, par exemple, je ne sais pas si Skype essayait de faire une connexion SSH vers un serveur sur Amazon, ben c'est le genre de choses que je ne voudrais pas permettre, mais que je voudrais vraiment savoir. Ça va vous permettre de détecter si vous roulez, par exemple, imaginons que vous rouliez, vous ouvrez un PDF qui a un exploit pour Adobe Reader pour Mac dedans, puis tout à coup, votre Adobe essaie de faire des connexions DNS directement, ben vous allez le voir dans Little Snitch. Ce qui risque de vous arriver plus souvent, c'est que vous allez voir des applications qui se connectent à des services de pub ou de analytics que vous voulez bloquer. Puis vous allez pouvoir les bloquer là. Puis ça donne vraiment une bonne visibilité aussi. Là, ça vient avec une interface que vous allez pouvoir voir qu'est-ce qui utilise le plus de bandwidth sur votre réseau. Fait que c'est pratique, pas juste pour la sécurité. En fait, une autre utilité que j'ai trouvée qui est vraiment, vraiment pratique, c'est il permet de créer des profils. Donc, si vous avez, par exemple, une connexion Ethernet quand vous êtes au bureau, vous avez plusieurs SSID Wi-Fi quand vous êtes à la maison, quand vous êtes au bureau, de temps en temps, peut-être que vous vous connectez sur le hotspot de votre téléphone, c'est un SSID différent, ou peut-être en USB ou en Bluetooth sur votre téléphone, il est capable de détecter automatiquement sur quel réseau vous êtes puis d'appliquer des règles différentes. Puis ça peut être pratique, pas juste pour la sécurité, mais même, par exemple, moi, je m'en sers, j'ai un profil qui s'appelle Tethering. Ben, quand j'active mon profil Tethering, j'ai des règles qui vont bloquer à peu près tous les services d'auto-update qui existent pour que quand je suis sur mon plan data, ben j'ai pas un update de 8 gigs pour macOS qui s'installe sur mon Mac. Fait que c'est vraiment très pratique pour ça aussi. C'est un outil qui ne coûte pas très cher, qui est commercial. Évidemment, ces genres d'outils comme BlockBlock qui ont des accès quand même assez low level, fait que très, très important de les garder up-to-date. Il y a déjà eu des vulnérabilités dans Little Snitch, mais je pense que pour le commun des mortels, la sécurité que vous gagnez en ayant le contrôle sur qu'est-ce que vos applications font, si vous gardez vos logiciels à jour, ben ça vaut largement la peine versus les bugs que ça pourrait introduire.
Oui, puis il faut le dire en plus que la plupart des attaques qui se produisent, ça va être des attaques qu'on va cliquer sur quelque chose, social engineering, peu importe, qui va se connecter de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, pas passer d'Internet, traverser des firewalls, mais bien atterrir sur votre poste et retourner vers le command and control. Donc, c'est vraiment le type de sécurité à avoir, autant personnel que dans les Absolument. Entreprises, puis c'est vers là que tout s'en va officiellement.
Puis c'est quelque chose que je trouve que sur Windows, le firewall Windows est peut-être un peu plus flexible de base que celui sur Mac. T'sais, sur Mac, avec PF, on peut faire à peu près n'importe quoi, mais il n'y a pas d'interface graphique, puis c'est pas nécessairement facile. Puis sur Linux, mais évidemment, c'est vraiment, vraiment flexible, puis il n'y avait pas grand-chose qui ressemblait à ça. Mais pour ceux qui utilisent Linux, vous pouvez regarder SubgraphOS, a un firewall applicatif qui ressemble beaucoup à Little Snitch. Donc, pour ceux qui nous écoutent, qui utilisent Linux sur vos desktops, ça vaut la peine de checker ça.
All right. Prochaine section, en fait, petit guide de hardening pour OS.
Oui, donc, bon, le hardening, ça reste toujours important. Puis, il y a sur un Mac vraiment, vraiment beaucoup de processus qui roulent en continu, qui roulent dans le background pour faciliter, par exemple, la découverte d'autres périphériques par bonjour. Puis, il y a beaucoup de fonctionnalités de sécurité qui ne sont pas nécessairement activées de la façon la plus sécuritaire. Donc, le lien qui est dans les show notes contient vraiment, vraiment beaucoup de recommandations pour sécuriser un Mac. Si vous êtes intéressé à sécuriser un Mac, je vous recommande de vraiment lisez-le. Si vous êtes un nerd de Mac, vous allez vraiment aimer ça. Vous n'avez probablement pas besoin d'activer tout ce qui est là-dedans, mais vous devriez porter une attention spécifique à ce qui a rapport au chiffrement avec FileVault, puis tout ce qui est Hibernate. Donc, ça, c'est un problème que je vois assez souvent, autant sur des postes personnels qu'en entreprise. Les gens ont du chiffrement de disque, mais leurs paramètres de gestion d'électricité puis de la batterie fait que leur laptop est pratiquement toujours en stand-by. Puis en stand-by, ben, les clés sont en mémoire. Donc, dépendant de votre threat model, si on veut, c'est peut-être quelque chose que vous voulez éviter. Donc, par exemple, si vous pensez que votre laptop est complètement chiffré lorsqu'il est éteint, mais il est en stand-by puis les clés sont en mémoire, ben, c'est pas tout à fait vrai. Sur Mac, ce qui est intéressant, c'est que l'hibernation puis le stand-by se font un peu en même temps. Donc, quand votre Mac tombe en sleep, il va sauvegarder son fichier d'hibernation au cas où il, éventuellement, aurait plus d'électricité dans la pile, puis perdrait la mémoire et serait capable de restaurer à partir du fichier d'hibernation. Donc, en changeant les paramètres, vous pouvez détruire la clé FileVault quand le laptop tombe en stand-by, puis vous pouvez changer le mode d'hibernation pour que ce soit un peu plus agressif puis que ça reste en stand-by moins longtemps. Le seul désavantage que ça a, c'est que dans certains cas, quand vous allez sortir d'hibernation ou de stand-by, vous allez devoir taper votre mot de passe FileVault. Puis une fois que ça va être décrypté, il va vous demander votre password de votre Mac, qui dans bien des cas va être le même. Je recommande d'avoir un mot de passe FileVault qui est différent de votre mot de passe de login sur le Mac, parce que vous pouvez avoir un super long mot de passe FileVault, vraiment, vraiment très, très sécuritaire, puis votre mot de passe que vous utilisez juste sur votre Mac est peut-être un peu plus court. Puis d'en avoir deux séparés, bien, ça rend certaines attaques plus difficiles. Mais si vous utilisez le même, vous allez devoir taper le même deux fois. Fait que ça peut être un peu chiant, mais je pense que pour les gens qui voyagent beaucoup, ça vaut vraiment, vraiment la peine. Puis c'est un guide qui est vraiment, vraiment excellent. Encore une fois, à lire.
Petite question. Est-ce qu'il y a une différence pour les Macs qui ont juste du SSD versus les Macs qui ont des disques durs en spin? Je sais qu'ils réagissent généralement différemment.
Ouais, selon non, c'est les mêmes settings. C'est les mêmes settings pour l'hibernation, dans le sens que ça s'appelle Destroy FileVault Key on Standby, puis vous mettez ça à 1, ça va s'assurer que la clé FileVault est effacée, puis ça ne change pas que ce soit SSD ou hard drive. Puis après ça, il y a le mode d'hibernation qu'on peut configurer à certaines valeurs différentes pour que ce soit plus agressif. On pourrait même décider qu'on ne veut jamais avoir de stand-by. La seule chose que je dirais, c'est que évidemment, si vous n'avez pas d'SSD, ben, ça va peut-être être plus long. T'sais, si vous évitez le stand-by, ben, à chaque fois que vous sortez du sleep, il faut qu'il relise votre mémoire au complet à partir du disque dur. Sur un SSD, on parle de quelques secondes versus une seconde. Bien, c'est certain que si vous avez un disque dur, surtout si vous avez un iMac avec un disque dur qui est quand même assez lent parce que c'est des disques durs de laptop et c'est pas du 7200 RPM, bon, bien, là, ça va peut-être être un peu plus problématique. Mais en même temps, tous les laptops ont maintenant des SSD. Sur les desktops, il y a beaucoup de gens qui vont faire le stand-by moins souvent. Là, on s'en sert, on arrête de s'en servir, tout ça. Fait que c'est certain que testez-le. Un autre warning par rapport à Destroy FileVault Key on Standby, c'est si c'est un laptop qui est joint sur un domaine Active Directory. Je sais qu'on ne parlait pas trop de sécurité d'entreprise, mais au cas où il y a des gens qui nous écoutent qui voudraient activer ça, j'ai eu et beaucoup d'autres personnes ont eu et il y a des bugs qui sont verts avec Apple puis tout ça. J'espère que ça va être réglé bientôt, mais quand vous activez Destroy FileVault Key on Standby, et que votre Mac est sur Active Directory, dans certains cas, si votre mot de passe AD expire puis que vous le changez sur votre Mac, Ça ne le change pas dans File Vault si vous aviez le même. Puis là, ben, ça devient le jeu de se souvenir quel mot de passe on avait avant. Donc, si vous êtes sur AD, je vous recommanderais de bien, bien tester. J'imagine que si vous êtes sur AD puis que vous êtes du genre à changer ces paramètres-là, c'est peut-être parce que vous travaillez en TI ou en sécurité. Dans ce cas-là, testez ces paramètres-là avant de les déployer à tout le monde dans votre entreprise. Puisque, bon, tu sais, pour nous, non, d'avoir deux, trois mots de passe, c'est peut-être quelque chose qu'on ne veut pas appliquer à tout le monde. Puis si vous en servez personnellement puis que vous n'avez pas d'AD, il n'y a vraiment, vraiment aucun problème. L'autre truc qui est vraiment important sur un Mac puis qui, dont on parle dans ce hardening guide-là, c'est Gatekeeper puis XProtect. Donc, Gatekeeper puis XProtect, c'est deux noms que peut-être pas tout le monde connaît les noms, mais probablement qu'il y en a beaucoup qui connaissent les fonctionnalités. Donc, en gros, Gatekeeper, c'est ce qui permet de dire à un Mac exécute juste les softwares qui sont signés par un développeur qui a un certificat qui est fourni par Apple, ou la version un peu plus drastique qui exécute juste les trucs qui viennent du App Store. Je vous recommande fortement, puis c'est le paramètre par défaut, mais de ne pas changer les settings de Gatekeeper pour exécuter ce qui n'est pas signé. Puis la raison est assez simple. Si vous avez un truc qui n'est pas signé, puis vous savez que c'est un truc qui est valide, exemple, vous venez de le compiler vous-même, c'est votre propre code, vous n'avez pas signé parce que vous n'allez pas le distribuer, ou c'est un logiciel auquel vous faites confiance qui n'est pas signé, vous avez juste à faire un right-click dessus, puis à faire open, puis ça va bypasser Gatekeeper. Mais au moins, quand vous allez télécharger quelque chose, puis vous venez pour l'exécuter, puis il n'est pas signé, ben automatiquement, il va pas pouvoir s'exécuter. XProtect, ben ça c'est un truc pour lequel il n'y a pas vraiment de paramètres, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. C'est l'espèce de mini anti-malware qui vient dans Mac OS, qui est capable d'identifier les malwares vraiment les plus communs sur un Mac, puis de les empêcher de s'exécuter. Pourquoi c'est intéressant de savoir c'est quoi XProtect? Ben parce que de temps en temps, on a parlé de BlockBlock, mais il va y avoir des updates silencieux sur Mac. Vous n'allez pas le voir comme un update dans le App Store, puis tout à coup, il y a l'utilité Shove qui va essayer de faire un update aux définitions XProtect. Donc, ça peut être un peu épeurant si on ne sait pas c'est quoi, mais en général, une petite recherche Google, puis vous allez voir que Apple vient de mettre à jour les définitions XProtect pour bloquer un nouveau trojan, un nouveau botnet, n'importe quelle sorte de malware qui est assez populaire sur Mac pour que Apple le rajoute dans XProtect. Ben, en ayant BlockBlock, vous allez savoir que ça s'est passé, alors que pour la plupart des gens, c'est un update qui est silencieux, puis ils ne verront jamais.
Excellent, merci. Notre prochaine, dernière petite section, deux petits logiciels. On a Santa qui a été développé par Google et Little Flucker. Donc, si on commence par Santa, qui est quand même assez récent.
Ouais.
Date d'un an, mais on a découvert ça récemment, plutôt dans les dernières
semaines. Donc, Santa, c'est une application pour faire du whitelisting sur Mac. Petit warning, c'est vraiment pas user-friendly. Il n'y a pas vraiment d'interface graphique ou quoi que ce soit. C'est quelque chose que je pense qui va intéresser vraiment les gens qui sont très, très familiers avec les Mac, mais aussi ceux qui gèrent des Mac en entreprise, surtout des entreprises qui sont très à risque. Là, Google, ben, c'est un très bon exemple. C'est eux qui ont développé Santa. Ça vous permet de créer des genres de blacklists ou des whitelists, idéalement, des règles selon des paths, selon des certificats, puis aussi de générer des logs quand il y a certains événements qui se produisent. Donc, c'est vraiment un environnement de whitelisting qui est très, très, très intéressant, puis qui peut être configuré de façon centrale. Donc, probablement plus intéressant pour les gens qui gèrent des Mac en entreprise, mais Google Santa, vraiment, là, très pratique, surtout que côté Mac, il n'y a pas la même flexibilité de base pour gérer ce genre de trucs-là que sur Windows. Surtout Windows, les versions très récentes. Bon, il y avait App Locker, maintenant il y a Device Guard. Il y a de plus en plus de solutions pour le whitelisting sur Windows qui viennent de base, mais pas sur Mac. Donc, regardez Santa, c'est super intéressant. Puis, Little Flocker, c'est un logiciel qui est développé par Jonathan Zdarsky, qui fait de la recherche surtout en forensic pour iOS puis pour Mac. C'est un outil dont je voulais parler pendant le segment technique. La seule chose qui m'inquiète un peu, c'est qu'il vient d'être engagé par Apple dans la dernière semaine. Donc, je ne sais pas si c'est un outil qui va encore être développé dans le futur. S'il continue d'être développé, ça vaut peut-être la peine de le regarder. S'il n'est pas maintenu et qu'il n'est pas rendu open source, ben là, je ferai un peu plus attention. Mais c'est le même concept que Little Snitch, mais un peu plus appliqué au file system. Donc, au lieu de vous avertir quand une application X essaie de se connecter à l'externe, il va vous avertir qu'une application essaie d'aller écrire un fichier dans telle ou telle path. Ça vous permet de gérer de façon très granulaire quelle application peut aller écrire où, même quand ce n'est pas des applications qui sont sandboxées. Parce qu'on sait que dans le App Store, pour Mac, les applications doivent être sandboxées, mais ce n'est pas le cas de toutes les applications pour Mac, vu que c'est une architecture qui est plus proche, dans le fond, d'un PC classique versus iOS. Donc, pour ces applications-là, ça peut être une sécurité qui est vraiment très intéressante. Par exemple, pour se protéger contre les ransomware, si vous ouvrez un fichier Word, puis que tout à coup, ça essaie d'écrire tous les paths sur votre système, bien, vous allez tout de suite l'avoir avec Little Flocker. Donc, à regarder, mais si ce n'est pas gardé up-to-date dans les prochains quelques mois, je pense que je laisserai faire en attendant que quelqu'un d'autre mette la main sur le code, continue à le maintenir ou que ça soit rendu open source.
Yes, thanks. Nick, certains points à relever dans tous ces logiciels-là, il y en a-tu que tu utilises ou?
J'utilise Little Snitch régulièrement. La seule chose que je trouve dommage avec Little Snitch, c'est que c'est complexe à gérer pour quelqu'un qui n'est pas familier avec ce que c'est. Donc, il n'est pas très user-friendly, il est très puissant, mais il y aurait un petit peu un avantage à aller un peu plus loin de ce côté-là. Sinon, Knock Knock, puis. L'autre, je n'utilise pas BlockBlock, mais Knock Knock, oui. C'est à peu près ça dans moi ce que je fonctionne. Sinon, je vais plus proche de la machine que ça avec PF, entre autres, là, où je vais jouer directement dans les.
Ouais, c'est ça. Le gars qui trouve que Little Snitch n'est pas user-friendly, il utilise PF directement.
Ouais, non, mais c'est parce que si je mettrais ça dans les mains de mes parents, par exemple, ça ferait job.
Il serait pas puis ça, je pense que c'est un truc qui montre vraiment là, à quel point un système qui est où ce que le whitelisting est forcé par défaut, puis tout ça, comme iOS, c'est vraiment plus user-friendly. Je pense pas qu'il y a aucune de ces applications-là que j'installerais sur le Mac de quelqu'un que je sais qui est vraiment pas technique, tu sais, parce que. OK, BlockBlock te dit que Shove essaye d'installer un nouveau kernel extension de what? Little Snitch, OK, ton browser essaie de se connecter sur le port 8201. C'est-tu normal? C'est pas normal? Voilà, Santa, on oublie ça. Puis Little Flocker, c'est un peu la même chose. Mais en même temps, je me dis, quelque chose comme Little Snitch, j'aimerais tellement ça avoir ça sur iOS. Parce que les apps sur iOS, puis j'avais fait une présentation là-dessus à NordSec, je pense que c'était l'année passée, il se connecte à tellement de sources externes. J'avais fait un test, les jeux, les top 5 jeux gratuits versus les top 5 jeux c'est payants. Dégueulasse. Puis j'avais fait une vidéo, on pourrait le mettre dans les show notes. J'avais fait une vidéo en 5 minutes, je roulais les 5 apps gratuites les plus populaires. Puis là, j'accélérais la vidéo, là, mais juste pour montrer le nombre de destinations au réseau où est-ce que ça se connectait. Puis si tu avais Little Snitch sur ton iPhone, c'est sûr que tu aurais envie de te pitcher par la fenêtre avant de configurer les règles pour. Mais en même temps, on n'a vraiment aucune visibilité. Fait que c'est là où est-ce que... Tu sais, je sais qu'Apple veut améliorer la sécurité de macOS dans le futur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire avec la connectivité vers l'externe, le sandboxing. Tu sais, le sandboxing sur iOS, c'est bon. Sur Mac, le Little Flocker, c'est encore pire que Little Snitch là, pour ce qui est des warnings qui sont vraiment pas user-friendly, puis il y en a tellement. Mais en même temps, le Mac App Store, c'est un peu un désastre. Fait qu'à cause de ça, il n'y a pas tant d'applications qui sont sandboxées sur un Mac. T'sais. Fait que c'est pas évident. Là, je trouve que ça démontre bien comment que l'architecture plus ouverte d'un PC qui est vraiment pratique pour plein d'affaires, ça reste quand même assez difficile à sécuriser de manière user-friendly. Là.
Ouais, mais c'est le sandboxing qui était une bonne idée à la base. Le problème, c'est que dans l'implantation du sandboxing, c'est pas facile à implanter. Et encore moins de façon user-friendly. Fait que là, ça crée des espèces de zones difficiles.
C'est ça, pour les développeurs. Les zones sont difficiles pour des développeurs. Puis si on se souvient, au début, le Mac App Store avait accès à iCloud, mais les applications qui étaient en dehors du Mac App Store l'avaient pas. Fait que ce qui crée une situation où c'est que pendant un bon bout de temps, si tu voulais que tes applications sync avec ton application iOS, ben, tu étais mieux de prendre la version du Mac App Store. Mais là, la version que le développeur vendait directement n'était pas sandboxée et avait plus de features. Je trouve que le Mac App Store a complètement été botché par Apple, surtout au début. Maintenant, les applications qui sont signées avec un certificat fourni par Apple peuvent aussi avoir accès à iCloud, mais ce n'était pas le cas dans le temps. Puis le sandboxing, ben, il manquait certaines features pour que certaines applications puissent l'utiliser. Puis à cause de ça, on dirait que c'est même plus une nouvelle quand une application décide de s'en aller du Mac App Store puis de retourner dans les channels qui sont traditionnels. Puis c'est un peu dommage. J'ai comme l'impression qu'Apple, ils ont manqué leur chance, mais j'ai comme l'impression...
Ouais, mais ça fait partie des choses qu'Apple a faites. Le problème, c'est qu'ils sortent des choses trop vite, pas assez prêtes. Il force les gens à y aller trop vite, comme le fait du iCloud, par exemple, qui interdisait les applications pas dans l'App Store de pas utiliser. C'est une façon de comme forcer les développeurs, mais la finalité, c'est que ça n'a rien fait.
Ben, ça le nuit plus ça, que le résultat, ça a été qu'au lieu d'utiliser iCloud, ben, les développeurs ont créé leur propre méthode de sync. Fait que là, on a 8 comptes pour des applications différentes. Et puis on sait que ces méthodes de sync-là ne sont pas nécessairement aussi sécuritaires. Fait que moi, j'ai l'impression que le Mac App Store, on va peut-être voir des changements là-dessus bientôt. Mais ce qui pourrait vraiment faire une grosse, grosse différence, c'est si jamais un jour Apple sort, par exemple, un MacBook qui a un processeur ARM, ben là, tu sais, ce serait leur chance de forcer les gens à recompiler leur software pour ARM, puis dire, bon, ben pour les MacBook ARM, ben il y a juste le Mac App Store qui est permis. Puis là, ça leur permettrait de forcer le sandboxing. Puis évidemment, ce ne serait pas le genre de Mac que les gens qui sont vraiment des power users seraient intéressés à avoir parce qu'ils seraient probablement pas mal plus limités. Mais ça pourrait peut-être être bon pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de toutes les fonctionnalités avancées. Là, tu sais, comme un peu plus proche de iOS, mais en ayant quand même le power de macOS, mais avec du sandboxing qui est forcé. Fait que j'ai comme l'impression qu'ils ont manqué leur chance. Ça va prendre un gros changement ailleurs pour leur donner une autre opportunité. Fait que ça sera à suivre, j'imagine, dans les prochaines 2-3 années.
Ça, j'ai bien hâte de voir parce que moi, si effectivement le desktop tourne à iOS, moi, ils vont me perdre parce qu'il y a comme une espèce d'espace dans lequel qui est agréable de fonctionner sur un desktop que si on perd, moi, c'est sûr que je vais retourner sur une autre plateforme.
Ben, en tout cas, prédiction, moi, je pense que si jamais ils faisaient un Mac ARM, je pense pas que ça veut dire que tous les Macs seraient ARM et que tous les Macs seraient restreints de la même manière. Mais tu sais, par exemple, le MacBook qui est vraiment mince, là, le MacBook tout court, je sais pas comment l'appeler, là, MacBook, ça serait le genre de laptop que je verrais aller plus vers ARM puis aller vers une version qui est plus endurcie de macOS où ce que le sandboxing est forcé. Mais je pense pas que ça veut dire que le MacBook Pro, par exemple, deviendrait comme ça. T'sais, moi, ce qui m'a attiré vraiment plus vers les Macs, c'était le fait qu'il y avait un terminal puis que c'était Unix. Puis j'ai utilisé des Macs avant, mais j'ai jamais vraiment aimé ça parce que j'aimais mieux Linux. Puis le fait que ça soit que macOS, ça soit Unix, puis qu'on puisse faire qu'est-ce qu'on veut avec, c'est vraiment super intéressant pour moi. Mais je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses que je fais sur mon Mac, qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas besoin de faire, puis que ça serait plus sécuritaire pour eux si les features étaient juste pas disponibles ou bien beaucoup plus difficiles à activer. Donc, à suivre.
Tout à fait, oui.
Ben, moi, personnellement, être capable de compiler mes outils que j'ai besoin de travailler avec qui fonctionnent dans le terminal, puis être capable de rouler Outlook sur la même machine, je trouve que c'est vraiment, vraiment pratique. Si j'avais un Mac qui était ARM, peut-être que ça pourrait se faire, mais encore là, est-ce que Apple va empêcher l'exécution du code qui n'est pas signé si jamais ils sortent un truc dans le genre? C'est pas trop pratique d'être obligé de compiler tes trucs avec Xcode puis les signer avec un certificat à chaque fois que tu en as besoin. Fait que, bon, je suis certain qu'il va y avoir une certaine balance, mais je dirais que des fois, ça m'inquiète un peu aussi, mais je suis pas mal confiant que ça serait juste une autre option et non pas que ça remplacerait tout. Là.
Mais ça dépend de la nature du marché, parce que j'aurais mes parents, effectivement, eux autres, je leur donnerais un Mac ARM avec, dans le fond, aussi barré qu'un iOS, mais pour moi, non. Enfin, tu sais, c'est mais un peu comme, je pense que c'est Steve Jobs qui disait que les pick-up ont disparu, mais les n'ont pas complètement disparu, ont été remplacés par l'auto, mais pour des besoins plus marginaux, ça peut toujours servir. Fait que j'ai l'impression qu'ils vont conserver les besoins marginaux, mais ils vont focusser probablement plus sur des plateformes grand public qui sont
plus sécuritaire. Ouais, ben encore là, ça reste à voir, parce que si on regarde la dernière fois qu'ils ont updaté des trucs comme le Mac Pro, ben si on se dit on est peut-être un edge case aussi rare que les utilisateurs de Mac Pro, ben peut-être qu'aussi c'est plus ça leur marché, puis dans 5 ans...
Ça, c'était la poubelle, ça, right?
C'est quoi?
La poubelle?
Oui, la petite poubelle noire. Ben, oui. Je te dirais qu'au bout de plus de 1000 jours sans update, puis qu'elle coûte le même prix qu'originalement, ben c'est une poubelle qui coûte fucking cher.
Ouch.
Ben, bien joli, dans un coin, quelque part. Yes. Ben, merci, messieurs. Très intéressant, en espérant que tout le monde qui écoutait le podcast utilise ces outils-là si vous êtes sur Mac. On se revoit en fait le mois prochain pour un épisode de la Security Podcast. Suivez-nous sur Twitter et merci à tous. Bye.
Ciao.
Merci, bonne soirée.
No.